Le dévoilement de Duno 27. Dieu caché. Le 10 juin 2018. Brian Kozurek. Pasteur. Laissez-moi juste dire ceci avant de commencer ce sermon. C'est un miracle que j'ai pu écrire et compléter ce sermon, parce que je pleurais amèrement pendant que le Saint-Esprit m'aida à l'écrire. Et si je m'effondre ce soir pendant ce sermon? Veuillez m'en excuser. Mais je pense que vous comprendrez. Par conséquent, ce soir, je voudrais prendre un autre texte dans Jean au chapitre 12 et voir la scène à laquelle frère Branham fait allusion au paragraphe 94 de son sermon Dieu dévoilé. Pour commencer, ouvrons nos Bibles à Jean chapitre 12. Jean 12.1 Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. De là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Trois Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Quatre un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Cinq, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Six, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Maintenant, il se peut que vous n'aimiez pas les paroles de Jean ici, mais cela fait partie de la parole de Dieu. Jean connaissait l'esprit que Judas avait. Et rappelez-vous cela, Esther écrit après la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus et après que Judas ait vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Ainsi, Judas avait déjà montré ses couleurs au moment où Jean a écrit cela. Mais Jean nous peint une scène dans laquelle il nous faut entrer en sorte que nous puissions mieux comprendre qui était Jésus. Parce que souvenez-vous, une image parle mieux que 10 000 mots, et donc ce soir je vais utiliser quelques images pour nous aider à comprendre la mentalité des Grecs qui sont venus voir Jésus. 7 Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. 8 Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. 9 Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il, Jésus, avait ressuscité des morts. Maintenant, ce qui est frappant, à mon avis, c'est la façon dont Jean a écrit. Si vous lisez le livre de Jean, vous verrez que c'est à sa nature, mais Néhémie nous a pas écrit de manière suivie, comme Luc, des événements de la vie de Jésus, mais il nous a donné ses opinions, et plusieurs fois son discernement se révèle dans ses opinions. Donc, Esther ainsi que Dieu, l'a créé en sorte que le ton qu'il donne, l'histoire, sa version, aurait cette saveur en elle. Parce que Jean était un jeune homme très perspicace qui a commencé à suivre Jésus vers 16 ans et avait 20 ans quand Jésus a été assassiné par les autorités religieuses de son époque. Mais j'aime ses traits d'esprit et sa perception, et nous pouvons découvrir cela tout au long de cet évangile et même dans ses épîtres. Et histoire de vous raconter une anecdote amusante, un jour, je parlais à FR. Vel et je lui ai dit, vous savez, FR. Li, FR. Branham a dit que nous devons nous identifier avec quelqu'un dans la Bible. Alors quand je regarde Alpha, je pense que FR. Branham s'est identifié au ministère de Jésus et je pense que votre ministère de l'enseignement est semblable à celui de Paul. Et j'ai dit étant celui qui est jeune, je m'identifie avec Jean. Et il a dit rapidement, non, je suis Jean. Et nous avons tous les deux ri. Je suppose qu'il s'est identifié avec cet esprit de discernement quelque peu sarcastique que Jean avait. Mais cela n'a pas changé mon opinion parce que je pense toujours que Fr. Vel ressemblait plus à Paul qu'à Jean. Et je m'identifie toujours à Jean. Et peut-être que c'est ça mon problème. Parce que je dis ce que je pense. Quoi qu'il en soit, continuons à lire. 10 Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. 11 Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Je veux que vous vous arrêtiez ici une minute et que vous y songez. Les principaux sacrificateurs ont parlé et envisagé d'assassiner un homme parce que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Combien vulgaire et dégoûtant peut être la haine? Parce qu'une personne n'estère pas de notre camp? Je souhaite sa mort. Mais cependant, nous voyons ce même esprit non seulement parmi les islamistes, mais également parmi beaucoup de gens à l'esprit dénominationnel et organisationnel, qui se disent chrétiens. Cela me rappelle le moment où certains apôtres allaient de ville en ville pour évangéliser la bonne nouvelle, et ayant été rejetés dans une certaine ville, ils ont commencé à parler et ont dit, « Pourquoi n'aimez-vous pas faire descendre le feu du ciel et les brûler comme a fait Élie ?» Lisons simplement cela par nous-mêmes. Luc 9.43 Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, 44 Pour vous. Écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. 45 Mais les disciples Néhémie comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Jésus était si affligé dans son cœur sachant qu'il allait bientôt quitter la terre et laisser ses amis qu'il a appris à tellement aimer de tout son cœur, et eux n'avaient aucune idée de ce qui se passait dans son cœur, sachant qu'il allait bientôt être battu, sa chair allait lui être arrachée du dos et des côtes, puis il allait être suspendu à une croix par des clous lui transperçant les mains, et les pieds, et tous ses chers amis allaient le fuir et personne n'allait rester avec lui, sachant qu'il allait devoir endurer tout cela seul, avec personne pour l'aider à suivre ce terrible chemin qui s'offrait à lui. Et pourtant, bien des fois il avait accompagné tant de gens à suivre les leurs. Et tandis qu'il était affligé dans son cœur, remarquez ce qui était dans le cœur de ceux qui étaient avec lui. Ce n'était certainement pas ce qu'il y avait dans le sien. 46 Or, une pensée leur vint à l'esprit. Et quelle était la pensée que ses disciples avaient à l'esprit alors que Jésus commençait à entrer dans un état catatonique, dans lequel ses capacités motrices ont commencé à se raidir et le stress, dans son esprit, a commencé à lui donner des maux de tête? Au fait de simplement penser au châtiment qu'il allait subir, et ce qui était dans leur esprit, était de savoir lequel d'entre eux était le plus grand. 47 Jésus, voyant la pensée de leur cœur, discernant leur pensée d'auto-indulation, il prit un petit enfant, le plaça près de lui. 48 Et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Maintenant, vous avez pensé qu'ils ont su qu'il avait discerné leurs pensées, et qu'ils avaient pris ses paroles comme un reproche et auraient dit, pardonne-nous Seigneur d'avoir eu une trop haute opinion de nous-mêmes. Mais à l'instar de Pierre qui, pendant le service de communion, n'arrêtez pas d'avoir tout faux à chaque fois qu'il ouvrait la bouche. Qu'ont-ils dit ensuite? 49 Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il n'aime, il nous suit pas. Ici, Jésus se prépare à être crucifié non pour ce qu'il a fait, mais pour leur péché. Et s'il entrait dans cet état catatonique où son corps commençait à se raidir sachant ce qui allait arriver dans les prochains jours, et tout ce à quoi il pouvait penser, c'était à eux-mêmes. Et ces gens Néhémie font pas partie de notre groupe? Ils Néhémie vous suivent pas? Alors nous leur avons interdit de prier. Maintenant, je veux que vous examiniez cette scène. Jésus les avait conduits pendant 3 ans et demi, pendant laquelle il était totalement désintéressé, se donnant totalement aux autres sans considérer ses propres besoins. Alors on serait même de penser que les disciples avaient vu l'exemple qu'il leur donnait, et qu'ils étaient également morts à eux-mêmes et vivaient pour les autres, mais non. Ils n'avaient pas encore compris en quoi consistait la vie éternelle. Ils Néhémie pensaient toujours qu'à eux-mêmes. 50 Néhémie le n'empêchait pas, lui répondit Jésus, car qui n'estère pas contre vous estère pour vous. 51 Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Maintenant, vous pouvez voir par ce dernier verset qu'il était si proche du temps de ses souffrances et de sa mort qu'il était maintenant déterminé dans son désir d'aller le faire. Toute son attention, dès ce moment-là, se porta sur sa crucifixion. 52 Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. 53 Mais en Néhémie le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. 54 Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, comme Élie l'a fait? 55 Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant, « Vous Néhémie savez de quel esprit vous êtes animés. » 56 Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Maintenant, remarquez que Jean nous dit clairement que Jésus était prêt à aller à Jérusalem pour endurer la souffrance à laquelle il a été ordonné. Et il dit, nous nous sommes arrêtés en chemin dans une ville mais nous n'y avons pas été reçus. Oh! Si ces personnes avaient eu l'état d'esprit de Jésus et avaient su combien il avait désespérément besoin de leur compassion et de leur amour à ce moment-là de sa vie, quand il était sur le point de passer par la plus grande épreuve de sa vie pour eux. Et il n'avait pas eu un seul instant pour lui. Oh! Comme je sais ce qu'il endurait. Parfois, après avoir parcouru de grandes distances afin de visiter des frères et après avoir voyagé pendant des longues heures, ces derniers n'ont même pas eu la courtoisie de prendre quelques heures de dispense au travail afin de venir me voir. Ou encore, je pars à l'étranger, je m'épuise au point de souffrir d'une double pneumonie, m'étant toujours disposé à aller où Dieu veut que j'aille. Au final, les frères refusent à d'autres ministres d'assister à mes réunions, car ils Néhémie sont pas de notre groupe. C'est Esther la même chose que Jésus a vécu parmi ses frères. Aux frères et sœurs, les voyages missionnaires auxquels j'ai participé n'ont pas tous été de glorieuses et puissantes effusions du Saint-Esprit. Bien des fois, il y a eu tellement de rejets, de haine et d'injures à mon endroit, qu'on veut juste garder la tête entre les mains et pleurer pour le peuple de Dieu. Ils Néhémie comprennent tout simplement pas. 57 Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » 58 Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Remarquez que Jésus savait que l'homme n'avait pas la moindre idée de ce qu'il était disposé à faire. C'est Esther comme un frère à l'étranger qui m'a dit une fois, j'aimerais être prédicateur. Oh! Comme c'est Esther merveilleux de passer vos jours dans la parole et dans la prière. Et je pensais, le pauvre frère n'a aucune idée de la solitude, du rejet, des injures et tous les autres problèmes auxquels un ministre Esther confronté, telles que les plaintes entre deux membres de l'Église, ou entre un mari et sa femme, puis essayant de régler leurs différends. Quand on n'estère pas blâmé, par d'autres, pour le mariage raté ou la vie de famille ratée. Je me souviens, il y a des années, j'ai essayé d'aider une famille, mais Néhémie ne voulait pas être aidée. J'ai essayé de les faire venir à l'église et de centrer leur vie sur Christ, mais le mari était trop occupé par les prostituées, et finalement, la famille s'était effondrée. Ensuite, je devais prendre le blâme parce que Néhémie les avait fait venir à l'église et Néhémie les avait pas fait devenir des meilleurs chrétiens. Mais si Néhémie peut le faire, comment pense-t-il que je le pourrais? Mais alors Jésus a dit à un autre. 59 Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. 60 Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. 61 Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. 62 Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est-ce pas propre au royaume de Dieu? Donc, il semblait que tout le monde voulait suivre avec Jésus. Ou alors ils disaient le vouloir, mais quand ils en arrivaient là, ils avaient d'autres choses plus importantes à faire à ce moment-là. C'est-à-dire ainsi que Jésus a toujours été mis en second plan. Et pourquoi l'ont-ils mis en second plan? Je veux apprendre à ressembler à Christ. Oui, c'est-à-dire ce que les gens disent vouloir, mais c'est-à-dire toujours ce qui se passe au second plan. Car ce que Jésus leur offrait en leur permettant de le suivre, était l'occasion de voir de première main comment vivre la vie qu'une personne ayant le Saint-Esprit devrait vivre. Car la vie éternelle, c'est-à-dire de vivre pour les autres et non pour soi. Comment vivre pour les autres? Comment soumettre sa volonté à la volonté du Père? Au cours des 45 dernières années, j'ai entendu des gens dire, oh, comme je voudrais être comme Jésus ou comme je voudrais être davantage comme frère Branham. Et je pense, non, vous Néhémie ne le voulez pas, parce que le seul moyen pour que vous soyez comme lui, c'est de mourir comme lui à vous-même, et vous n'êtes pas disposé à le faire. Luc 10.1 Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Deux il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Trois partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Quatre Néhémie portait ni bourse, ni sac, ni souliers, et Néhémie salue personne en chemin. 5 Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord, que la paix soit sur cette maison. 6 S'il se trouve là un enfant de paix, votre père reposera sur lui, sinon, elle reviendra à vous. 7 Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas, de maison en maison. 8 Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. 9 Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est rapproché de vous. 10 Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on est mis vous recevra pas, allez dans ces rues, et dites, 11 Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est rapproché. 12 Je vous dis qu'en ce jour Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. 13 Malheur à toi, Corazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. 14 Sester pourquoi, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. 15 Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. 16 Celui qui vous écoute m'écoute, Et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. 17 Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. 18 Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien n'ennemi pourra vous nuire. 20 Cependant, n'aimez vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. 21 Ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 22 Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne n'est mis connaît qui est Esther le Fils, si ce n'est Esther le Père, ni qui est Esther le Père, si ce n'est Esther le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 23 Et, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. 24 Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et n'aimés l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et n'aimés l'ont pas entendu. Maintenant, revenons à notre histoire dans Jean chapitre 12 et reprenons au verset 12. Jean 12.12 Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, tressaillirent des branches de palmier, et allèrent au devant de lui, en criant, Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. 14 Jésus trouva un ânon, et s'assit dessus, selon ce qui Esther écrit, 15 Néhémie craint point, fille de Sion, voici, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. 16 Ses disciples Néhémie comprirent pas d'abord ces choses, mais, lorsque Jésus était glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui, et qu'il les avait été accomplies à son égard. 17 Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. 18 Et la foule vint au devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. 19 Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous n'avez mis gagné rien, voici, le monde Esther allait après lui. En d'autres termes, ce que ces pharisiens disaient vraiment, c'était, remarquez que même après toutes nos paroles trompeuses, et nos moqueries et nos tentatives de le duper et de trouver à redire, après tout ce que nous avons fait pour essayer d'arrêter ce mouvement, ça n'a servi à rien parce que peu importe ce que nous avons essayé de faire pour l'arrêter, plus nous en faisons, plus les gens le suivent. Maintenant, cette prochaine pensée ici, c'est Esther là où je veux en venir ce soir, où Jean dit, vint quelques Grecs. Du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, 21 s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dire avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Maintenant, je veux que vous vous mettiez à leur place pendant un moment. Parce qu'ici nous voyons que ces Grecs sont venus de Grèce pour voir cet homme qui marchait sur l'eau, ressuscitait les morts, guérissait les sourds, rendait la vue aux aveugles, guérissez les paralytiques et les boiteux et je veux que vous pensiez juste un instant et que vous rentriez dans leur état d'esprit et que vous pensiez comme ils devaient penser que Jésus devait être un genre de Dieu descendu pour faire ces choses. Et n'oublions jamais que c'était des Grecs. Et le peuple grec était connu pour être très attaché aux dieux et aux déesses et à toutes sortes de mythologies et qu'il possédait un Dieu pour à peu près tout ce que vous pourriez imaginer. Alors nous devons entrer dans leur esprit un instant, afin de comprendre ce qu'ils devaient chercher quand ils voulaient voir Jésus. Revenons donc à l'art grec ou même à la mythologie grecque et regardez les représentations des dieux grecs. En particulier le dieu de la guérison Apollo et sa progéniture Asclépio. Ils étaient des dieux descendus sur terre, pour guérir et soulager l'homme. Et voilà le genre de personnage qu'ils cherchaient. Quelqu'un de tellement musclé, de tellement surhumain, mais ce n'est pas ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé un homme d'environ 5'8" de hauteur, de petite stature et de petite carrure. La photo de gauche est celle du dieu qui était considéré comme le dieu de la guérison et de la médecine, Asclépio, fils d'Apollo. Il a la main le serpent sur la perche, que nous savons avoir été empreinte à ce qui s'est passé au jour de Moïse, lorsque Dieu a donné aux enfants d'Israël, à leur errant dans le désert, un serpent terrain placé sur une perche en signe de guérison. Donc, dans l'esprit de ces Grecs, qui sont venus voir Jésus, ils ont dû venir en cherchant un genre de Dieu, qui était physiquement un grand spécimen d'homme, mais qui ressemblait plus à un Dieu. Mais tout ce qu'ils ont vu quand ils sont entrés dans sa présence, c'était ce que Saïe a décrit. Comme ils ont dû être déçus. Car Saïe décrit le Fils de Dieu, pas comme une belle personne majestueuse, mais plutôt en des termes très surprenants qui Néhémie représente pas quelqu'un que nous admirerons. Lisons simplement la description que Dieu a faite de son fils premier-né dans Ésaïe 53.1 qui a cru à ce qui nous était annoncé, et à qui le bras de l'Éternel est stérile révélé, d'eux il s'est élevé devant lui comme une faible plante, pas gros, musclé, grand et majestueux, mais maigre et svelte, et petit et presque délicat. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Maintenant, imaginez dans votre esprit une faible plante, puis un rejeton sortant d'une terre desséchée, tout ratatiné et asséché, qui semblait avoir plus de 50 ans alors qu'il n'avait que 30 ans. C'est-à-dire ce qu'ils ont vu. Ils ont dit, comment pouvez-vous être plus âgé qu'Abraham alors que vous n'avez pas encore 50 ans? 50? Ils n'avaient que 30 environ quand ils ont dit ça. Voilà donc à quoi il ressemblait. Âgé pour son âge. Desséché. Épuisé. Il n'avait ni beauté. Ni éclat pour attirer nos regards. Ce mot éclat était traduit du mot grec chédar qui signifie magnificence. C'est-à-dire à dire ornement ou splendeur. Beauté. Convivialité. Excellence. Glorieux. Gloire. Attirant. Honneur. Majesté. Et il n'avait rien de tout ça. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Trop méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Pouvez-vous imaginer ça? La parole de Dieu a dit que nous détournerions nos visages de lui. Nous n'y voudrions même pas le regarder. Et il n'y avait rien d'attrayant pour le regarder. Donc, il dit, il était méprisé. Vous savez ce que cela signifie? Cela signifie regarder avec mépris, dégoût, aversion ou dédain, mépris, détester. Et il continue, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. 4 Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est-à-dire de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, ce qui signifie harcelé ou tourmenté, frappé, battu, de Dieu, et humilié, avili, châtié, faible, 5 Mais il était blessé pour nos péchés, il fut châtié, blessé, affligé, et battu pour ce que nous méritions, brisé pour nos iniquités, il a été battu et meurtri pour les choses que nous savions devoir faire mais Néhémie faisions pas, ou savions devoir Néhémie pas faire, mais ne les faisions quand même, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 6 Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a pris votre châtiment et la mienne. Il a pris la raclée que vous et moi méritions pour nos iniquités. Il a pris le châtiment qui vous était destiné. Pourtant, il était sans péché. Il ne devait pas être blâmé. En fait, il était irrépréhensible, et il n'y avait aucune raison valable pour laquelle il aurait dû prendre notre jugement et notre châtiment. Et pourtant, on nous dit que nous n'avons fait aucun cas de lui en considération de ce qu'il a fait pour nous. Je suis tellement affligé dans mon âme maintenant même que je peux à peine parler. C'est qu'il a été maltraité, harcelé, tyrannisé, affligé et opprimé, traité durement, et humilié pour ce que nous avons fait, et il n'a point ouvert la bouche. Il aurait pu dire: je suis innocent, je ne l'ai pas fait, ce sont mes frères qui l'ont fait, et nous montrer du doigt, mais ne l'a pas fait. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a encaissé tous ses coups et cette humiliation, et les gens crachaient sur lui, dégradaient son humanité par leurs paroles, par leurs coups de poing et par leurs diffamations odieuses. Cependant, il a juste pris sur lui alors que c'était nous qui aurions dû recevoir ce rejet disproportionné, pour notre nature pécheresse et incrédule. Et nous nous plaignons chaque fois que quelque chose n'est va comme nous le désirons. Nous devrions avoir honte de nous-mêmes. 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence. Mais il a reçu une mort très violente, et a même été battu impitoyablement à coups de fouet et a reçu des crachats avant d'être violemment cloué à la croix. Et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Et comme la Bible nous dit, un homme Esther tel qu'il pense en son cœur, et s'Esther de l'abondance du cœur que la bouche parle, alors il n'y avait même pas de tromperie dans son cœur, encore moins dans les choses qu'il disait. Et comment pouvait-il y en avoir? Il ne disait que ce que Dieu lui disait de dire. D'ici la plu à l'Éternel, Dieu, de le Fils aîné de Dieu, le charmant, celui que Dieu a tant aimé, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Que dit-il ici? Il parle de sa semence, toi et moi, sa semence. Et Dieu a fait tout cela à son premier-né pour que vous et moi n'aurions jamais à souffrir comme il a souffert, même si vous et moi méritions d'être châtiés pour nos méfaits, nos attitudes et notre désobéissance à notre Père. 11. À cause du travail de son âme, il, Dieu, son Père, rassasiera ses regards, par ses connaissances, la connaissance de Dieu, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il, le fils premier-né, se chargera de leurs iniquités. 12. Esther, pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands? Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'Esther a livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Maintenant, revenons à notre texte. Verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, 21 s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » 22 Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Maintenant, quand ces Grecs sont venus voir Jésus, Jésus a su par là que son temps avec les Juifs se prenait fin maintenant, et la scène était maintenant prête pour que la vérité de son ministère soit diffusée dans le monde entier, et Néhémie plus rester seulement avec les Juifs. 23 Jésus leur répondit, « Leur est venu où le Fils de l'homme doit être glorifié. Vous voyez, Quand les Grecs sont venus, il a su que c'était le signe que sa fin était proche. Il l'a dit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Puis il dit, 24 en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en ta main meurt, il reste seul, mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. 25 Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. 26 Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, laissez-le se mettre à ma place et vivre comme j'ai vécu et faire ce que j'ai fait, et dire les choses que j'ai dites que mon Père m'a ordonné de dire, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. 27 Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Remarquez, après que les Grecs soient venus, ils savaient que c'était le signal qu'il attendait car il a dit, 27 Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et que puis-je dire? Dit-il. Je n'ai mis peut pas dire Père. Enlève cette coupe loin de moi, car j'ai été ordonné à boire de cette coupe. Mais ce que je peux dire, c'est 28 Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Remarquez ce qu'il a dit. Ce n'était pas à propos de ce que Dieu pouvait faire de lui, mais ce que Dieu pouvait faire pour Dieu lui-même. Il n'était pas question de lui, il était question de Dieu. Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Père, j'entre maintenant de plein pied dans cette coupe pour ta gloire. 29 La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. 30 Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. 31 Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. 32 Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. 33 En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Moins 34 La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? 35 Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres n'aient vous surprennent point, celui qui marche dans les ténèbres n'aient sait où il va. 36 Pendant que vous avez la lumière, croyant la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux. Maintenant, le verset qui suit semble n'aimer pas correspondre à la scène que nous venons de lire, mais je pense que Jean l'a inséré ici parce qu'il nous montrait comment Jésus a donné et donné jusqu'à ce qu'il n'ait lui restait qu'une seule chose à donner, à savoir sa vie pour les gens. Et pourtant, bien que Dieu a manifesté sa présence divine avec Jésus en accomplissant beaucoup de miracles, cependant, les gens n'y croyaient toujours pas, et donc Jean dit, 37 Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils n'y croyaient pas en lui. 38 Afin que s'accomplit la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcé, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? 39 Aussi Néhémie pourrait-il croire? Parce qu'Ésaïe a dit encore, car il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'il Néhémie voie des yeux, qu'il Néhémie comprenne du cœur, qu'il Néhémie se convertisse, et que je Néhémie les guérisse. 41 Ésaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire, et qu'il parla de lui. 42 Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais, à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclu de la synagogue. 43 Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voilà, Jean a arrivé la chose juste là. Leur réaction n'était pas basée sur ce qu'ils ont vu que Jésus était, mais c'était le résultat de ce qu'ils craignaient des pères de leur Église. La pression du groupe. Lisons maintenant le sermon de frère Branham, Dieu dévoilé 64-06-14 et reprenons à paragraphe 94 les Grecs voulaient le voir. Dans Jean 12.20. Beaucoup d'entre vous m'ont entendu prêcher sur ces paroles, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Avez-vous remarqué ça? 95 les Grecs. C'était des érudits. C'était des hommes remarquables. Et ils éprouvaient un grand sentiment pour Dieu, comme Paul le leur a prêché à l'Aréopage. Et ils tenaient le premier rang mondial pour la science et l'éducation. C'étaient des gens remarquables. Seulement ils adoraient et croyaient à la mythologie et tout, les livres d'art et les arts curieux, et ainsi de suite. 96 Mais ils étaient en émoi au sujet de cet homme qui pouvait guérir les malades et qui pouvait annoncer d'avance des choses qui arrivaient exactement telles quelles. Ils étaient en émoi. Alors ils sont venus pour le voir. C'était il y a 2000 ans, et aujourd'hui, nous avons la même scène. En fait, pas les œuvres que Jésus a faites, mais des œuvres plus grandes que ce que Dieu a fait dans l'homme Jésus. La chair était l'homme, mais celui qui faisait les œuvres, c'était Dieu, purement et simplement. Maintenant, soyez très attentifs. Là, Néhémie manquait pas ceci. Voyez, ils sont venus, et ils ont dit à Philippe de Bethsaïda, « Monsieur, nous voudrions voir Jésus. » Et Philippe et un autre disciple l'ont amené à Jésus, voir Jésus. 97 Maintenant remarquez les paroles mêmes que Jésus lui a rapportées, car ils étaient venus pour voir qui il était, et ils n'ont pas pu le voir. Frère Branham donne trois coups sur la chair. Tirant des accents aigus, ils ont vu la forme, mais il était dans son temple. Dieu était dans son temple, voilé dans une chair humaine. Remarquez les paroles qu'il a prononcées, si le grain de blé Néhémie tombe en terre, voyez-vous, et Néhémie meurt, il reste seul. Voyez, le reste est revenu, elle sera bientôt là, où le Fils de l'homme sera glorifié. Voyez-vous, il doit disparaître de cette terre. Et si cette heure Néhémie vient pas, vous Néhémie pourrez jamais le voir. Voyez, je souhaite que les gens puissent voir ce que je vois ici. Tout ce que Jésus faisait, ce n'était pas l'homme qui le faisait, mais Dieu le faisait dans l'homme. Il a pleuré, c'était Dieu qui pleurait. Il a prié, c'était Dieu qui nous montrait comment prier. Il n'aimait disait que ce que Dieu lui montrait, nous montrant ce qu'un fils obéissant Esther censé faire. Il Néhémie pouvait rien faire jusqu'à ce que Dieu, en lui, lui montre que faire. Et pourtant, ils ont vu le masque, ils ont vu le vase et ils ont vu Dieu. Pourtant le vase était trop humain, trop brisé, trop humble. De sorte que Néhémie voulait pas de cette forme, il voulait un Dieu différent de ce que Dieu Esther. Vous voyez? Tout ce qu'ils ont vu Jésus faire, dire et poser comme acte, c'était Dieu en lui en train de faire ces choses. Donc, ce qu'ils ont vu, c'était Dieu, mais ils n'en voulaient pas pour eux-mêmes. Mais c'était ce que Jésus leur offrait et ils n'en voulaient pas. Alors frère Branham dit, 98 tenez, pourquoi Néhémie pouvait-il pas voir Jésus? Il était masqué. Dieu était masqué. Les Grecs voulaient un dieu, et il était là, mais ils n'ont pas pu le voir, à cause du voile. Et Esther la même chose aujourd'hui, ils ne peuvent pas le voir, à cause du voile. Il Esther jeté sur leur visage. Ces Grecs étaient masqués, ou, Jésus était masqué devant ces Grecs. 99 remarqués, il leur a dit, si ce grain de blé Néhémi tombe en terre, il reste seul. Sans ils, Néhémi pouvait pas comprendre comment, pourquoi il Néhémi pouvait pas le voir. Un homme se tenait là. Ils étaient venus pour voir Dieu, et ils ont vu un homme. Voyez, ils n'ont pas pu voir Dieu, parce que Dieu était voilé devant eux. Maintenant, retenez bien ça. Dieu était voilé dans un homme. Il pouvait dire, personne Néhémi peut faire ses œuvres, si ce n'est Esther Dieu. Personne Néhémi peut faire ça. Et comment? Ici il y a un homme, et pourtant les œuvres de Dieu se manifestent à travers lui. Voyez-vous, il Néhémi pouvait pas comprendre que Dieu était voilé. Sans il Esther voilé dans un homme, comme il a toujours été voilé. Mais il était voilé devant eux, il était dans son temple humain. Dieu était dans un temple humain. Maintenant, faites très attention, or, il Esther le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez, Dieu voilé, se cachant du monde, voilé dans un être humain. Voyez, ici, il y avait Dieu. Ces Grecs qui disaient, nous voudrions le voir. 102 Et Jésus a dit, un grain de blé doit tomber et mourir. Vous devez mourir à toutes vos idées. Vous devez vous débarrasser de vos propres pensées. Esther comme ce disciple. Il Néhémi pouvait pas expliquer ce qu'il en était de manger son corps et de boire son sang. Mais, voyez-vous, ils étaient complètement morts à ces choses. Ils étaient morts pour un principe. Ils étaient morts pour Christ. Quoi qu'il ait pu en être, ou combien sa défaite semblait assurée, ils le croyaient quand même, de toute façon. Voyez, ils pouvaient voir ce qu'il y avait dans cet homme, un homme qui mangeait, buvait, pêchait, dormait, et tout le reste, qui était né ici sur terre, et qui marchait avec eux, parlait avec eux, portait les mêmes vêtements que les autres, mais c'était Dieu. 103 Donc, les Grecs n'ont pas pu le voir, parce qu'il était caché d'eux, dans un être humain. Remarquez la parole qu'il leur a adressée, si ce grain de blé Néhémi tombe en terre. 104 Dieu, voilé, sous la forme d'un homme. Esther caché à leurs yeux, tout ce qu'ils ont pu voir, c'est Esther un homme. Mais ce qui était prédestiné, ils ont vu Dieu. L'un a vu un homme, l'autre a vu Dieu. Voyez, et c'était Dieu, voilé dans un être humain, donc ils avaient tous les deux raison, mais Esther la foi que vous avez dans ce que vous n'y voyez pas. Vous le croyez quand même. Dieu voilé dans un être humain. Il était dans cette chair-là, et cette chair-là était son voile. Le voile s'est-il déchiré, voyez-vous, pour que Dieu puisse être manifesté. 105 Dans l'Ancien Testament, Dieu était caché. Quand il était sur son propitiatoire, sur le propitiatoire, par un voile. Dans l'Ancien Testament, Dieu était dans son temple. Mais, les gens entraient et adoraient comme ceci. Mais, souvenez-vous, il y avait un voile, amen, qui cachait Dieu. Ils savaient que Dieu était là. Il Néhémi pouvait pas le voir. Cette colonne de feu n'Esther plus jamais réapparue là. L'avez-vous remarqué? Pas une seule fois, dans l'Écriture, depuis le moment où cette colonne de feu est rentrée derrière ce voile. Néhémie s'est montré de nouveau, jusqu'à ce qu'elle vienne par Jésus-Christ. Dieu était voilé. 106 Quand il était sur terre, il a dit, je viens de Dieu, et je retourne à Dieu. 107 Ensuite Paul, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, en route vers Damas, voilà cette colonne de feu qui était là de nouveau. Qu'est-ce que c'était? Elle était sortie de derrière le voile. Frère Branham donne 4 coups sur la chair. Des accents aigus. Gloire à Dieu. 108 Il avait été derrière le voile. Or, il avait été derrière quoi? Un voile de peau. Voyez-vous? Des peaux de blaireau. Derrière le voile. Et quand ce voile s'est déchiré, le jour de la crucifixion, que le voile qui l'enveloppait s'est déchiré, le jour de la crucifixion, le propitiatoire était à la vue de tous. 109 Or, les Juifs Néhémie pouvaient pas comprendre que Dieu puisse faire miséricorde à un peuple pécheur et vil comme nous. Mais Néhémie pouvait pas voir celui qui faisait miséricorde. Parce qu'il était caché. Il était derrière le propitiatoire. À l'intérieur. Avec des peaux de blaireau suspendues qui le couvraient. Tout le propitiatoire restera apparu lorsque vous le voyez dans la vie de Jésus. Le Fils premier-né. C'était Dieu en lui, qui a été rejeté. La vie Dieu. C'était Dieu. C'était la vie de Dieu en lui qui a été méprisée. C'était Dieu. Il est question de Dieu et Dieu nous a donné l'occasion de non seulement recevoir ce propitiatoire. Mais d'entrer dans ce propitiatoire et de conduire d'autres à ce propitiatoire en leur manifestant ce propitiatoire dans nos propres vies en tant que fils manifesté de Dieu vivant pour les autres. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, octobre 2019. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.